Radio Notre-Dame, RCF.
Bonjour à tous. Comme vous le savez, le pape François étant toujours en convalescence, pas d'audience générale cette semaine. Aussi, nous vous proposons d'écouter le magazine France-Afrique de Radio Vatican, daté d'hier soir.
Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. L'humanité est affligée par la guerre et la tyrannie des intérêts particuliers. Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin l'a affirmé dans son homélie lors de la messe célébrant la deuxième assemblée synodale des églises d'Italie dans la basilique Saint-Pierre. Il a indiqué la voie à suivre pour guérir la folie du pouvoir qui afflige le monde lourdement blessé par la violence. L'actualité politique et sociale sur le continent africain nous conduira au Burkina Faso, au Zimbabwe et au Kenya. Nous bouclerons cette émission avec la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Commençons l'actualité de l'Église avec l'intention de prière du pape pour le mois d'avril 2025. Le Saint-Père nous demande de prier pour l'utilisation des nouvelles technologies pour qu'elles ne remplacent pas les relations humaines, mais respectent la dignité des personnes et aident à affronter les crises de notre temps. Le pape François continue de se rétablir d'une pneumonie bilatérale dans sa résidence de la Maison Sainte-Marthe au Vatican, selon une mise à jour fournie mardi 1er avril par le bureau de presse du Saint-Siège. Le Saint-Père est toujours de bonne humeur, indiquent les informations sur la santé du pape présentées mardi par le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, indiquant que ses analyses sanguines sont normales, tandis qu'une récente radiographie des poumons indique une amélioration de son état de santé. François alterne ses activités entre le travail et la prière. Les détails avec Myriam Sanduno.
Le pape François se reprend peu à peu. De belles améliorations respiratoires sont constatées. La radiographie du thorax réalisée ces derniers jours montre également une amélioration du tableau infectieux pulmonaire. La salle de presse du Saint-Siège rapporte que les différentes thérapies se poursuivent et l'oxygénation à haut débit à l'aide de canules nasales a lieu principalement la nuit et en cas de besoin. Selon les informations données depuis celle de vendredi, on apprend que le pape continue son travail. Il célèbre la messe tous les matins dans la chapelle du deuxième étage de la maison Sainte-Marthe. Le Saint-Père ne reçoit pas pour le moment de visite spéciale, mais reçoit beaucoup d'affection de la part du personnel de santé et de ses collaborateurs les plus proches. Son texte de l'audience prévu pour ce mercredi sera rendu public comme les mercredis précédents et les modalités concernant l'Angélus seront évoquées lors du prochain point de presse. En ce qui concerne les rites de la semaine sainte, indique la salle de presse du Saint-Siège, il est encore prématuré de s'y prononcer. Et parlant de l'homélie de la messe de dimanche prochain pour le jubilé des malades, elle informe qu'elle sera préparée par le pape et lue par Mgr Fisichella, propréfet du dicastère pour la nouvelle évangélisation.
Le Saint-Père a accepté la renonciation du gouvernement pastoral du diocèse de Mzuzu au Malawi, présenté par Mgr John Alphonsus Ryan, et a nommé évêque de Mzuzu Mgr Yohane Susgo Nyirenda, jusqu'ici auxiliaire du même siège. Dans un message adressé aux participants à la deuxième assemblée synodale des églises italiennes, le pape François rappelle que l'Église est faite du peuple de Dieu qui marche ensemble et que la joie chrétienne ne vient pas de solutions faciles aux problèmes, mais de la certitude que le Seigneur ne nous abandonne jamais. La joie chrétienne n'est jamais exclusive, mais toujours inclusive. Elle est pour tous, a rappelé François dans ce message aux participants de la deuxième assemblée synodale des églises d'Italie réunie au Vatican du 31 mars au 3 avril. Cette session marque la dernière phase prophétique du parcours synodal de l'église italienne lancé en 2021 pour redéfinir sa mission en Italie dans un esprit de responsabilité partagée et de discernement reflétant la vision du pape François d'une église synodale. Le thème de la joie est au cœur des discussions au cours desquelles plus d'un millier d'évêques, de délégués diocésains de toute l'Italie voteront les propositions présentant les idées qui ont émergé au cours de ces 4 années d'écoute et de discernement. Dans la matinée du mardi 1er avril, le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin a présidé la messe à l'intention des participants à la deuxième assemblée synodale des églises d'Italie dans la basilique Saint-Pierre. Commentant l'évangile du jour, il a indiqué la voie à suivre pour guérir la folie du pouvoir qui afflige le monde lourdement blessé par la violence. L'homme malade que Jésus guérit à Jérusalem est l'emblème de l'humanité d'aujourd'hui, douloureuse et souffrante, avec un cœur endurci qui peut trouver dans le Christ une réponse de guérison en ouvrant la voie aux paroles puissantes de Jésus. L'Église célèbre mercredi 2 avril le 20e anniversaire du décès du Saint-Pape Jean-Paul II. Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin préside en cette date au Vatican une messe spéciale à cette intention. Le pape François a adressé ses encouragements à tous ceux qui participeront ce jour-là aux commémorations en l'honneur du défunt pape polonais, y compris à une veillée de prière dans la soirée de mercredi 2 avril.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au Kenya, le président William Ruto fait polémique en donnant quelque 280 000 euros à des églises évangéliques. La pratique des dons aux églises est ancrée au Kenya où les politiciens visitent régulièrement les lieux de culte et plus encore durant les années électorales afin de s'attirer les grâces des dévots qui sont autant de voix potentielles pour les futurs scrutins comme la présidentielle de 2027. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a gracié la semaine dernière 21 militaires condamnés pour leur rôle dans le putsch manqué de septembre 2015 contre le gouvernement de transition mis en place après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Considérés comme les cerveaux du putsch manqué et condamnés à 20 et 10 ans de prison, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, respectivement anciens chefs d'état-major particulier et chef de la diplomatie de Blaise Compaoré, ne sont pas concernés par cette amnistie. La police zimbabwéenne a annoncé mardi l'arrestation de 95 personnes accusées de promouvoir la violence publique pour avoir participé lundi à une manifestation appelant le président Emmerson Mnangagwa à quitter le pouvoir. Ils sont accusés d'avoir jeté des pierres sur la police et temporairement barré une importante artère. Le chef de l'État zimbabwéen est confronté à une contestation depuis son arrivée au pouvoir il y a 8 ans face aux graves difficultés économiques. Les évêques de Côte d'Ivoire ont publié lundi 24 mars un message appelant à une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Le message a été rendu public le dimanche 30 mars au terme des différentes célébrations eucharistiques. Dans une interview à Radio Vatican, l'évêque de Daloa et président de la conférence épiscopale ivoirienne, Mgr Marcelin Yao Kouadio, nous situe sur les éventuelles initiatives à mener. On l'écoute.
Nous avons parlé, c'est déjà un grand pas. Nous allons publier une lettre pastorale plus développée. Ce message, il va être lu dans toutes les églises des 15 diocèses de notre pays. Dans les CEB, nous allons essayer, faire en sorte que ce message soit lu, analysé, médité, parce que n'oubliez pas que comme chrétiens, nous sommes appelés et nous sommes celles et lumières de la société, celles et lumières du monde. Donc, nous sommes pour que les premiers à être des artisans de paix, de justice, de vérité, ceux qui protègent la vie, soient les chrétiens. Concrètement, sur le terrain, sans compter nos multiples rencontres, parfois aussi avec des hommes engagés en politique, là aussi, même si ce n'est pas toujours médiatisé, nous avons parfois des rencontres sur la vie de notre pays sous l'angle politique. Voilà.
Des colloques, des séminaires et autres tables rondes sont-ils prévus?
Pas forcément. Nous sommes à quelques mois de l'élection. Les colloques visent et touchent une certaine élite. Or, si nous voulons, quand on parle d'élection législative, municipale, présidentielle, c'est l'affaire de tout un peuple. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des communautés ecclésiales de base, les mouvements, les associations, les groupes de prière. Notre message doit être relayé à ces différents niveaux. Donc, chaque responsable de mouvement, d'association, groupe de prière va recevoir le message pour voir comment monnayer ça au niveau de CEB. Déjà, le fait de lire ce message dans toutes les églises catholiques de notre pays, vous voyez que peut-être la voix va plus porter que si on organisait un colloque ou un séminaire avec 100 ou 200 ou voire 300 personnes. Voilà.
La Commission nationale justice et paix sera évidemment impliquée.
Effectivement, la Commission justice et paix ne fera que prolonger, vu que dans chaque diocèse, il y a une commission diocésaine justice et paix. Donc, vous voyez que ces petites commissions diocésaines aussi vont relayer l'information en termes de sensibilisation, en termes d'information et même de formation. Tout naturellement, la mission qui les attend. Et ils doivent aussi donc jouer leur partition.
Monseigneur, nous terminons cet entretien. Quel est votre mot de la fin, votre appel?
L'appel est contenu dans le titre de notre message. Appel à une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. À nos compatriotes, surtout ceux qui sont engagés en politique, qui mettent tout en œuvre pour que les élections soient crédibles et apaisées et que le verdict des urnes s'impose à tous et à chacun.
Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, évêque de Daloa et président de la Conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, propos recueillis par Françoise Niamien. Bouclons cette émission avec la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde, présentée par Stanislas Kambashi.
Ouvrons cette rubrique par la deuxième assemblée synodale de l'Église italienne en cours jusqu'au 3 avril. Vous l'avez déjà évoqué, Marie-Josée, c'est le président de la conférence épiscopale italienne, le cardinal Matteo Zuppi, qui a ouvert les travaux lundi dans la salle Paul VI au Vatican. L'Assemblée enregistre plus de 1000 participants, parmi lesquels le jeune, les délégués diocésains et des invités qui vont analyser et voter des décisions faites au long d'un cheminement synodal commencé en 2021. Nous changerons les structures au sein de l'Église si c'est nécessaire, a déclaré le cardinal Zuppi. La chose la plus importante, a-t-il noté, est de faire couler la parole de Dieu dans les veines de la société. Pour les prélats italiens, l'engagement de l'Église italienne dans le futur est de devenir des constructeurs des communautés, de relations, des familles où est générée la vie et où s'est construit le nous de la maison du Père qui serait autrement blindé par la rancœur blessée du frère aîné qui n'a pas d'intérêt pour la fraternité. Quittons l'Italie pour la Birmanie, qui est secouée depuis vendredi dernier par un séisme dévastateur qui a tué plus de 2000 personnes et ravagé quantité de bâtiments et d'infrastructures. Ce tremblement de terre de magnitude 7,7 a causé d'énormes dégâts. Dans cette situation, le cardinal Charles Mangbo, archevêque de Rangoon, a appelé à mettre de côté les dissensions politiques pour faire face à l'urgence humanitaire. Il a également lancé un appel sincère au cessez-le-feu à tous les groupes hostiles engagés dans un conflit dont souffre le pays. Le cardinal Bo a exprimé sa gratitude pour les messages de soutien envoyés par le pape aux personnes touchées par la catastrophe. Comment est la situation sur place? Suivez ce témoignage du père Delorme, un missionnaire en Birmanie.
Quand on lit les nouvelles de Mandalay ou du Sagagne ou de d'autres endroits, on se dit que bon, dans un village où il n'y a pas de grands bâtiments, on est plus protégé. Donc même si on a été choqué, même si on a eu peur. Nous, on n'a pas eu de décès. Donc il y a un couple de touristes français qui sont décédés dans le restaurant où ils avaient leur déjeuner parce que le restaurant s'est effondré sur eux. Je ne les connaissais pas, mais j'ai dit la messe à leur intention. On a un village musulman pas très loin. Là, ils ont été beaucoup plus marqués. Donc je pense qu'on ira leur rendre visite ou les aider, les soutenir, oui, d'une certaine manière ou d'une autre. Il y a d'autres endroits où vraiment il y a des familles en deuil. Hein. C'est le plus dur. J'ai des connaissances qui font les recherches dans les fouilles. Il faut trouver les corps, il faut réassembler les corps pour pouvoir les présenter aux familles. familles, c'est tragique. Le jour du tremblement de terre, on a quand même fait le chemin de croix ensuite, à continuer à célébrer les sacrements, pour continuer à avoir la messe. Puis après, d'essayer d'aider les uns et les autres. Voilà, le problème, c'est que beaucoup de gens, pour le moment, sont dehors, parce qu'ils ne veulent pas rentrer chez eux. Donc là, on essaie de construire des petites huttes. C'est la saison chaude, donc heureusement, il n'y a pas de pluie. Puis si les gens veulent soutenir, essayer de trouver un moyen pour soutenir la population locale. Prier pour le peuple birman et la Birmanie, qui est un pays peu connu, mais qui est un très très beau pays, qui fait face à des difficultés politiques et économiques, mais qui ne sont pas nouvelles.
Le père Delorme, missionnaire en Birmanie, des propos recueillis par Augustine Asta. En Bosnie-Herzégovine, l'Église croit au dialogue pour renforcer la paix face à la grave crise politique et institutionnelle qui frappe ce pays de la péninsule balkanique. L'Église appelle au respect des droits de l'homme et à l'égalité entre les trois peuples de la nation bosniaque, les musulmans, les serbes et les croates. Monseigneur Tomo Vukšić, archevêque de Verbosna à Sarajevo et président de la conférence épiscopale de Bosnie-Herzégovine, assure que seul le respect mutuel peut sauver la paix qui n'a pas d'alternative moralement acceptable. Signalant que le leader serbe Milorad Dodik menace d'accentuer l'autonomie de la République Srpska, la République serbe de Bosnie, fragilisant l'unité du pays et défiant les institutions centrales. Il s'agirait même, pour certains observateurs internationaux, de la plus grave crise depuis la fin du conflit armé qui s'est achevé par les accords de Dayton en 1995. Il faut du courage pour vivre l'humilité, le courage d'être obéissant, de vivre dans la pauvreté. Tels sont les mots de sœur Rosa Maria Rios Gomez, supérieure générale de la Congrégation des Servantes de Jésus, à propos de la fondatrice de sa congrégation, la bienheureuse mère Carmen Rendiles au Venezuela. Cette religieuse sera canonisée prochainement. Elle deviendra la première sainte vénézuélienne. Le pape François a autorisé la promulgation du décret de canonisation de la première sainte vénézuélienne, la bienheureuse Maria del Monte Carmelo, plus connue sous le nom de Mère Carmen, quelques jours après avoir également autorisé la canonisation du bienheureux José Gregorio Hernandez. Deux Vénézuéliens seront donc canonisés à une date qui sera annoncée lors d'un prochain consistoire.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabualo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.